Bonjour à tous. Je vous propose déjà de lire deux prières, deux cantiques prophétiques. Le premier dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, c'est la prière de Anne. Anne pria et dit : Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois, celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. C'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence. Car l'homme ne triomphera pas par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera la force de son roi. Voilà une belle prière prophétique. J'aimerais vous en lire une deuxième. Dans l'évangile de Luc, c'est deux prières prophétiques faites par des femmes dans des circonstances difficiles ou inhabituelles, ou pour Anne, une bonne circonstance, puisque Dieu a répondu à sa prière. Luc chapitre 1, les versets 46 à 55, c'est donc ce cantique de Marie, cette prière de Marie. Marie dit : Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité à toujours. La semaine dernière, Laurent nous a un petit peu introduit dans des textes un petit peu semblables. Il avait repris ce psaume 113. Là aussi, Dieu est tourné vers le pauvre, vers l'indigent. Il le fait assis avec les grands. Et puis, il nous avait lu le relèvement de ce roi qui était prisonnier à Babylone pendant 37 ans et qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé à la table d'un autre roi où il a été nourri toute sa vie. Noël est un temps qui nous parle aussi de la fragilité humaine. L'incarnation a été quelque chose de fragile. Dieu venu en chair parmi les hommes. Anne, qui était stérile, a enfanté. Son premier enfant s'appelait Samuel. Ensuite, elle a eu 3 fils et 2 filles. 4 garçons, 2 filles. Les choses pour elle se sont arrangées après des années de difficultés. Et elle fait ce cantique, pour moi extraordinaire, où elle part de Dieu qui aime et qui choisit. Dieu aime et choisit tout ce qui est petit. Tout ce qui est moindre. En français, je ne sais même plus si c'est un mot qu'on utilise encore. Quelque chose qui est moins, qui est moindre, c'est vraiment, qui n'a presque pas d'existence, qui est insignifiant. Dieu aime ce qui est faible, ce qui est humilié dans l'humilité, ce qui est abaissé. Je vais utiliser d'autres mots. Dieu aime ce qui est inférieur, ce qui est pauvre, ce qui est misérable. Alors avec ces mots, bien sûr, il y a plein d'oppositions. Tout ce qui est grand, tout ce qui est supérieur, tout ce qui est élevé, ça ne veut pas dire que Dieu l'aime pas, mais parfois il le met de côté pour agir avec tout ce qui est petit, tout ce qui est faible. Le moment de l'incarnation est un moment qui est dans un petit pays, dans un petit patelin. Un enfant est né. Seuls les bergers étaient présents, et puis pour beaucoup, c'est passé inaperçu. Nous, on a le récit, c'est facile. Mais à l'époque, c'est passé presque inaperçu. Et pendant des dizaines d'années, la vie va continuer. Qui a pensé à cela? N'ayons pas honte de ce que nous sommes en Dieu. Même si on se sent petit, moindre, faible, pauvre, fragile, Dieu choisit et aime ce qui est ainsi. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se dévaloriser à l'extrême, mais il faut simplement savoir qu'au travers de ce que nous sommes, Dieu peut choisir et aimer ce que nous sommes, même si le regard qu'on a sur nous est peu de choses. J'aimerais lire avec vous les béatitudes. Régulièrement, ça fait toujours du bien de les lire. C'est dans Matthieu, au chapitre 5, les versets 3 à 12. La manière d'être et d'agir de Dieu est un peu à l'inverse des choses du monde. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira de vous faussement du mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je ne sais pas comment chacun se sent dans sa propre vie, mais c'est vrai que parfois on a l'impression d'être un peu ballotté, d'être si petit sur la terre. Et pourtant, il y a quelque chose en cela que Dieu choisit et que Dieu aime. Je ne sais pas si ça peut nous aider à nous aider nous-mêmes. Le cœur de Dieu, l'attitude de Dieu, l'être intérieur de Dieu est très différent des choses du monde. On le lit dans ses béatitudes. Dieu aime ce qui est petit, ce qui est faible, ce qui est humble, ce qui sur la terre ne brille pas, n'a pas tant que ça de valeur. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on aime tellement avoir de la valeur, mettre des choses que tout le monde... Beaucoup de choses qui s'évaporent, qui partent dans le nuage numérique, aussi vite lancées, aussi vite oubliées. Dieu a un regard favorable sur tout ce qui est faible, tout ce qui est petit, tout ce qui est pauvre en esprit. Simplement parce que Dieu veut être glorifié. Son état d'esprit est le contraire, l'inverse des choses du monde. Dans le cours de l'histoire, Dieu a souvent choisi des choses que les hommes n'avaient pas vu venir et qu'ils ont eu du mal à intégrer. Même le petit Samuel, on a vu le cantique de sa naissance au travers du cantique de Anne. Même David, le prophète Samuel, ne l'avait pas vu venir. J'aimerais lire avec vous dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16, le verset 7. Samuel est allé dans une petite tribu, dans une petite famille, dans une petite ville, à Bethléem. Et puis là, il était chez un homme qui s'appelait Isaïe. Et puis il a dit, allez, plein de fils, fais-les venir. Il y en a plein qui sont venus, qui étaient grands, qui étaient beaux, qui étaient des guerriers. Et puis Samuel, dans son dialogue avec Dieu, disait, est-ce que c'est celui-là que je dois rejoindre pour moi? Puis il disait, non. Je vais lire au verset 6. « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. » Quel est mon regard sur ma propre vie, sur l'Église, sur le monde autour de nous? Est-ce que l'on aime ce qui a de la parade, de l'éclat, des likes sur Internet? Depuis pratiquement 50 ans, c'est toujours la fête de toutes les vedettes du cinéma, de la chanson, de l'art, de... Une chanson célèbre qui dit « Je voyais mon nom en grand en haut de l'affiche. » Tous les chrétiens n'ont pas leur nom en grand en haut de l'affiche. Même à Noël, le nom de Christ, pas forcément en haut de l'affiche. Jean-Marc dit souvent que le monde a oublié ce que c'est que Noël. Et puis quand on parle de marché de Noël... C'est souvent des choses artisanales ou de la nourriture qui n'ont pas grand-chose à voir avec Noël. Le nom de Christ n'est pas en grand en haut de l'affiche. Et pourtant, c'est le nom qui est choisi, qui est aimé de Dieu. Nos noms, peut-être pas en haut de l'affiche. Ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille. Ce n'est pas que Dieu ne l'aimait pas, mais simplement, il avait fait un autre choix. Esaïe fait passer 7 de ses fils devant Samuel. Et puis à chaque fois, Dieu dit à Samuel, non, pas celui-là. Non, pas celui-là. À la fin, il aura pu s'impatienter. Je lui dis, mais tout le monde est là. Il dit, oh non, j'en ai encore un tout petit dernier. Il garde les troupeaux, il n'était même pas présent parce que trop insignifiant. Quelle apparence, c'est le petit dernier, un petit peu oublié. Samuel dit à Isaïe, est-ce que c'est là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, il fait paître les brebis. Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons point qu'il ne soit venu ici. On l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, c'est lui. Alléluia. Les mêmes paroles s'appliquent aussi sur nos vies. C'est Dalila, c'est Jean-Marc, c'est Mélissa, c'est Jean-Louis, c'est Dalila là-bas. C'est lui, oins-le. Dieu veut nous oindre comme David a été oint. Il veut nous remplir de son esprit. Même si on considère qu'on n'est pas en haut de l'affiche, qu'on est trop petit pour les choses de Dieu, personne n'est trop petit pour les choses de Dieu. Peut-être qu'on n'a pas un métier extraordinaire, révolutionnaire. On n'est pas des chercheurs qui travaillent pour le Téléthon, qui faisons des grandes découvertes, qui vont changer des choses pour des maladies. Là, chacun peut à son imaginaire sur peut-être ce qu'il aurait aimé être. Souvent Dieu dit, mais est-ce que tout le monde est là? Et puis non, il en reste encore un dans un coin. On ne l'avait pas vu. Peut-être que les églises sont peuplées de gens qui sont dans un coin de la pièce. Ceux qui sont au fond. Le Seigneur aime ceux qui sont au fond. Mais il aime bien ceux qui sont devant aussi. Ouais, mais... Quand on essaye de se cacher, quand on a de la peine à exister, à s'affirmer, et l'Esprit de Dieu cherche des hommes, des femmes, de toute qualité, même si on a l'impression que la nôtre est faible. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Il nous faut apprendre à changer notre regard. Les béatitudes, c'est quelque chose de difficile. C'est révolutionnaire. Ça a été écrit il y a 2000 ans. Heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les petits, les faibles, heureux ceux qui ne sont rien à leurs yeux. Ils sont choisis. Aimer de Dieu. Le Seigneur nous l'a répété ce matin 3 fois. Hein. J'aime ce qu'il y a au milieu de vous, je vous aime. Ça peut sembler facile à dire, c'est pas toujours facile à recevoir. Dieu nous aime tel que l'on est, même si on est le dernier, le petit oublié, même si on se cache dans l'assemblée, même si on est au fond, même si tout ce que l'on peut rajouter... Chacun pour notre part. Dieu choisit ce qui est humble, pauvre, abaissé, en opposition à ce qui est grand, fort, supérieur, élevé, puissant. Pensez-y, c'est aussi les choix de Dieu au travers des béatitudes. On poursuit en lisant un texte dans 1 Corinthiens. Au chapitre 1, j'ai toujours beaucoup lu ce texte en me demandant s'il était raisonnable. 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous justice, sanctification, rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce que Christ a été fait pour nous justice, sanctification et rédemption, Dieu choisit les choses folles, les choses viles. L'Écriture dit celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, celles qui ne pèsent pas beaucoup, celles qui ne sont pas tellement visibles. L'Église n'est pas toujours forcément visible dans ce monde. Et pourtant, elle existe. Et tant qu'elle existe, l'Esprit de Dieu essaie de travailler dans le monde pour attirer à lui le plus de monde possible. Le jour où l'Église va être enlevée, il y aura une période où ce sera sans doute moins bien. Dieu aime les choses qu'on méprise. Peut-être parfois on se sent méprisé dans notre famille, dans notre milieu professionnel pour X raisons. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu a son regard sur nos vies. Si chacun de Dieu, de nous, pouvait se dire, voilà, le Seigneur aussi me choisit. Peut-être aussi pour le peu que je représente. C'est pas que le peu que je représente aux yeux du monde qui est important. C'est ce que je représente dans le royaume de Dieu, dans les lieux célestes. Là, nos vies ont une valeur, ont du poids, ont quelque chose à dire. Ce texte se termine, il était comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça aussi, pour nous, c'est un apprentissage. Se glorifier de ce que nous sommes en Christ, parce que Dieu nous a choisis pour un but particulier, parce que ce qu'il veut que nous soyons en Christ est quelque chose de nouveau, nouveau par rapport à ce que nous sommes, ce que nous étions, ce que nous pouvons devenir. En Christ, quelque chose de nouveau est né dans notre vie. On lit un texte dans le psaume 115. Les trois premiers versets, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations, dira-t-elle, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Là aussi, être petit, réaliser qu'on est petit, faible, pauvre, etc. Ça a de la valeur si on remet tout cela en Dieu et en Christ. Pas si c'est seulement quelque chose pour nous affliger et puis nous rabaisser encore plus, simplement pour le présenter à Dieu par Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom dans ma vie, à ton nom dans l'Église, donne gloire, donne la puissance, donne la sagesse. Ce que nous ne sommes pas fait, transforme-le, faisant quelque chose de beau, qui a de la valeur, qui a un impact dans l'univers. Pour ceux qui s'intéressent à science de la Terre est quelque chose d'unique. Petite planète bleue, on n'a pas trouvé une meilleure, on essaye de regarder le plus loin possible, voir si on trouve des équivalents. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup se disent, si un jour ça tourne mal, on aimerait délocaliser. Si on est sérieux, voilà, ça ne va pas être en 2020 encore qu'on va partir ailleurs. Pour le moment, la Terre est quelque chose de fragile, quelque chose d'unique. Tous les spationautes, tous les astronautes qui ont tourné autour de la Terre sont restés pendant des heures et des heures à regarder Les derniers spationautes chrétiens, là, le jeune disait, je crois qu'ils font 20, 28 fois le tour en 24 heures. Donc, il a le temps, il a passé son temps, ses heures libres, à prendre des photos. Tellement c'est quelque chose de... un émerveillement. Croyons ou non croyons, il y a quelque chose qui... On se dit, bah ouais, la planète Terre, c'est quelque chose de fantastique. Le premier couple qui a démarré l'humanité, c'était pas grand-chose. Deux êtres dans un beau jardin. Puis Dieu leur dit, allez, on y va, on multiplie. On administre la terre, le balbutiement de la race humaine. Noé, un tout petit bonhomme dans un pays paumé, puis Dieu lui dit, construis un bateau. Il habitait ni Lorient, ni Douarnenez, ni Vannes. Pleine nature, il s'est mis à construire quelque chose de... Les gens passaient à côté, ils disaient, ouais, ça c'est le... C'est le... C'est le timbre et le fêlé. Dieu a choisi un homme au Moyen-Orient. Abraham, il l'a fait quitter son pays et il l'a lancé dans un tout petit pays, quelques centaines de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres de large. Puis il lui dit, voilà, crée quelque chose de nouveau au travers toi. Toutes les familles de la terre seront bénies. Comment est-ce qu'un homme peut recevoir une parole comme ça? Quelle est la parole que Dieu prononce sur notre vie? Ce matin, une parole prophétique où Dieu a dit plusieurs fois, trois fois, je veux que tu vives ma bénédiction. Je veux te bénir. Recevons la bénédiction de Dieu, créons dans nos vies quelque chose de nouveau. Découvrons un nouveau pays. Partons pour quelque chose de nouveau. Tous ces hommes, jusqu'à Jésus, ce sont... étaient des choses fragiles, petites, parfois insignifiantes. Il y a environ une cinquantaine de textes dans l'Écriture qui nous disent que Dieu a choisi des choses petites, des choses moindres, des choses insignifiantes. On pourrait toutes les lire. Bon, ça prendrait un petit peu le temps. Il y a tellement de beaux textes. Moi, j'ai toujours enfilé ces textes comme des perles. J'ai toujours beaucoup aimé lire tous ces textes où Dieu nous parle qu'il a choisi et qu'il a aimé des choses petites, des choses pauvres, des choses faibles, des choses insignifiantes, des choses qui ne sont pas grand-chose. Après, le regard que l'on porte sur notre propre vie. Parfois, on pense peut-être cela de l'Église aussi. On dit, l'Église en Europe aujourd'hui, c'est quoi les troupes? C'est quoi le nom en haut de l'affiche? Dans d'autres pays, l'impact de l'Église est plus conséquent. Dans d'autres endroits, c'est plus compliqué. En ce moment, au Burkina Faso, hein. La semaine dernière, une église a été brûlée, 10 chrétiens sont morts dans certains coins. Non seulement on est petit, mais on essaye d'effacer l'église. En Égypte, en ce moment, c'est difficile. C'est le choix de Dieu. De choisir ce qui est petit, c'est un choix risqué, c'est aussi un choix assumé. Nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Dieu aimerait que tous les hommes viennent à lui, mais pendant un temps, c'est un temps de patience. J'aimerais lire avec vous au chapitre 61 d'Ésaïe, un texte qui est connu, mais on aime le relire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Dans les temps de la fin, les temps des nations, et depuis que Jésus est venu, Dieu vient au secours des malheureux, de ceux qui ont le cœur brisé, des captifs, aux prisonniers. Est-ce que l'on choisira de conquérir le monde avec une armée, une équipe comme ça? Dans mon travail, parfois, quand les jardiniers étaient un peu moins performants, hein, on parlait de bras cassés. Bon, avec cela, on ne fera pas grand-chose. C'est une équipe de bras cassés, voilà, des artisans, des gens qui ne font pas très très bien leur travail. Parfois, est-ce que ce n'est pas cela que Dieu va chercher? Mais pour les rétablir, pour leur donner quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Publier une année de grâce pour l'Éternel. C'est une année qui est longue, hein, ça fait 2000 ans. Il est parlé d'un jour de vengeance. Peut-être ce jour va arriver. Un temps de patience qui va jusqu'aux extrémités du monde. Dieu choisit les petits. Dieu aime les petits, les moindres, les faibles. On ne peut pas tous les citer. Gédéon, Saül, David. Plus petite tribu, plus petite famille. Plus petite ville, Bethléem, j'en remarque quand on a parlé ce matin. C'était ce très beau texte de Michée, au chapitre 5. Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi, petite ville, parmi les milliers de Judas, sortira celui qui tiendra le sceptre. Ça, c'est déjà du passé. Isaïe dit aussi, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton. Dieu choisit ce qui est faible. Mais dans les temps de la fin, il va choisir, aimer et équiper des hommes, des femmes pour que le rapport de force s'inverse. Si on lit le verset 22 du chapitre juste avant 61 dans Ésaïe, Ésaïe 60, verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. On ne sait pas quand le temps des nations va finir. Et quand Jésus va faire quelque chose de nouveau à partir de Jérusalem, renaissance d'Israël. Mais quand Dieu va faire les choses, quelque chose de. Le rapport de force va changer. Il nous a dit qu'un seul sera comme David. Et on disait, Saül en a tué tant, David en a tué beaucoup plus. D'autres textes disent, réveillez les héros. Que le plus faible dise, je suis fort. C'est les cantiques qu'on chante. Comment est-ce que Dieu peut transformer notre regard sur le fait que l'on soit petit, faible, pauvre, insignifiant à nos propres yeux. Mais comment est-ce que Dieu peut aussi changer notre regard? Et avec l'onction de son esprit, dire, voilà, Seigneur, je me lèverai. Je me lèverai, je veux marcher avec toi. Je veux marcher pour toi. Le choix d'Israël. Dieu dit qu'il l'a choisi parce que vous êtes le moindre de tous les peuples. Et je vous choisis parce que l'Éternel vous aime. Dieu a aimé Israël. Dieu a choisi Israël, un petit peuple, 400 ans en esclavage en Égypte. Est-ce que ça aurait été notre choix? On aurait peut-être choisi les Assyriens, qui avaient des armées, qui avaient des... Dieu a choisi un peuple pour qui, pour, avec qui la vie a été difficile. Dieu l'a choisi, l'a installé dans un petit pays. Énormément de beaux textes. Là aussi, hein, je vous invite à lire toute l'écriture. Et dans tellement de livres de la Bible, il y a des textes qui sont, enfin, je trouve apaisants, qui font du bien. Parce qu'ils disent aussi, quand on se sent, voilà, ballotté, un petit peu trop léger, un petit peu trop signifiant, tellement de beaux textes qui peuvent nous dire aussi comment Dieu peut nous aimer, malgré notre petitesse, malgré notre... On va terminer, on pourrait beaucoup parler de l'apôtre Paul, qui parle beaucoup de faiblesse et de force, mais on termine avec un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, les versets 8 à 10. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il dit qu'il avait une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peut-être qu'on demande à Dieu d'éloigner de nos vies certaines choses. Pendant pratiquement 7-8 ans, quand j'avais sous la main un pasteur, j'allais le voir pour certaines difficultés, toujours les mêmes. Et j'ai reçu ce texte, ma grâce te suffit. Puis je disais, bon. Et puis, ça, comme on dit, ça a un petit peu traîné pendant pas mal d'années. Et puis un jour, j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait dire, ma grâce te suffit. Et un après-midi, la grâce de Dieu a ôté ce fardeau, cette difficulté. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je crois qu'il y a un texte célèbre qu'on doit avoir aussi en chant. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne sais pas quel regard chacun jette sur sa propre vie ce matin. Mais je voulais vous laisser cette assurance que Dieu choisit aussi ceux qui ont un regard sur leur vie, qui est petit, qui est faible, qui est moindre, qui n'est pas très valorisant. Dieu nous aime tel que l'on est. Et à partir de ce que nous sommes, voilà, il va nous placer en Christ et voilà, développer quelque chose d'autre pour que l'on puisse dire « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » On veut prier ensemble. Père Céleste, merci d'avoir choisi dans les valeurs de ce monde des choses qui n'en ont pas justement aux yeux du monde. Merci de la valeur que tu donnes à chacun de tes enfants. Merci pour ce que tu nous choisis, pour ce que tu nous aimes au travers de ce que nous sommes. Et merci parce qu'en Jésus-Christ, tu crées quelque chose de nouveau. Et le faible peut dire « je suis fort ». Merci pour ton esprit qui nous tient debout, qui nous permet de confesser ta parole, de recevoir des choses nouvelles, de vivre cette bénédiction. Merci pour ces paroles prophétiques aussi ce matin, encourageantes pour chacun, parce que tu rencontres et tu bénis chacun. Seigneur, ouvre nos cœurs, nos esprits, nos intelligences, pour que nous comprenions et que nous acceptions là d'entrer dans cet appel, dans cette transformation, au travers de ce que nous sommes chacun. Amen.